La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Je vous souhaite la bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Comme à l'habitude, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque. Bonjour Izzy, comment ça va?
Ah ben bien le bonjour, ça va très très bien.
Oui. On va parler de littérature aujourd'hui, entre autres, avec nos chroniqueurs Yannick Patelli, éditeur à la vie agricole.
Mais on parle d'agriculture d'habitude.
Oui, on va parler d'agriculture et de littérature.
Ah, okay.
Et Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon.
Bonjour.
Bonjour. C'est un livre qui porte presque le titre d'un conte pour enfants.
Oui, ah, c'est Culture et agriculture. Le livre s'appelle Un village dans un fromage.
Un village dans un fromage. On va parler de ce livre. Yannick, je vais te laisser nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Puis peut-être simplement souligner, surveiller dans les émissions subséquentes cette semaine. Là, je me souviens pas précisément si c'est celle de jeudi ou vendredi qui sera diffusée. On a une entrevue qui sera faite avec... l'auteur, l'autrice, ou je sais pas, on dit-tu autrice?
Oui, moi, j'aime pas ça, mais on dit ça.
Ouais, du livre, alors voilà. Mais présentons-le, ce livre.
On va dire, le livre a été écrit par Suzanne Dion. Dion, qui est administratrice, d'ailleurs, de l'Institut Jean Garon également.
Oui, c'est vrai.
Qui a été la rédactrice du rapport Pronovo, l'une des rédactrices du rapport Pronovo à l'époque. Donc, le livre, un village dans un fromage, qui est édité chez Septentrion, se dit aussi le patrimoine agroalimentaire du Québec en évolution, parce que c'est effectivement un regard sur l'évolution agroalimentaire du Québec, mais c'est aussi l'histoire d'une famille, la famille Morin, les générations de la famille Morin à Sainte-Élisabeth de Warwick, les cinq générations, effectivement. On y était il y a quelques temps, Michel était présent également, et tout l'Institut était là pour supporter Suzanne. On y a rencontré des gens fort intéressants. Moi, je vais juste vous dire une petite phrase avant d'écouter Jean Morin, parce que j'ai une petite entrevue avec Jean Morin. Il faut savoir que la préface, elle est faite par Fred Pellerin.
Puis là, dans le fond, c'est un peu l'histoire de l'agriculture à travers cinq générations d'une même famille au Québec.
Exact. Oui. C'est très intéressant à cause de tous ces rappels historiques-là qui nous permettent de voir que comment c'était...
L'agriculture.
Et un peu la petite misère.
Et comment ça s'est amélioré.
Il y a une très belle préface de Fred Pellerin, je ne vous lirai pas tout, je vous ai simplement la première phrase où il dit « Je suis entré chez les Morins à l'invitation de Jean. On s'est croisé sur cet amour de la villagerie qu'on partage sur ces questions de savoir-faire, des clochers et sur ces rêveries de territoire et de ruralité. » C'est très intéressant comme livre. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Jean Morin, le soir même du lancement, nous a confié ceci.
Okay.
Bonjour, nous sommes à la fromagerie Le Presbytère. Nous, la vie agricole, on est déjà venu vous voir il y a quelques années. D'ailleurs, je me souviens, je pense que c'est une inauguration. Il y avait Pierre Paradis qui était présent. Là, ce soir, c'est un livre sur votre famille et sur l'histoire du presbytère qui est raconté, en fait, par Suzanne Dion et qui est présenté ce soir. Quel effet ça vous fait de voir que vous êtes rendu dans un livre?
Ben, c'est une grande, grande fierté de voir que notre vie s'arrête et elle est finalement écrite sur l'histoire et à travers, bien sûr, l'histoire de la ruralité. Et ce qu'il y a de plus précieux à laquelle j'aspirais à être, c'est que tout ça soit fait dans le cadre de l'évolution de l'agriculture depuis 150 ans. Et ça ressemble à plein de petits villages au Québec. Et c'était très précieux que ça se fasse dans ce sens-là. Et c'est ma grande fierté, que c'est ma famille, finalement, qui s'est inscrite à travers notre vie dans ce livre-là.
Oui, puis je pense avoir vu dans le livre de Suzanne Dion, qui est l'auteur du livre, en fait, que en fait, vous avez un rôle productif, évidemment, vous avez un rôle sociétal, environnemental. Votre rôle, on le voit pas forcément comme ça, mais les fromageries, elles sont plus importantes que l'on pense dans les villages.
Ben là, oui, et c'est pas que les fromageries, il y a plein d'entreprises agroalimentaires depuis 20 ans qui se sont installées à travers notre ruralité et qui l'ont maintenue vivante, colorée et très, très agro-touristique. Et ça, c'est précieux. On le voit aujourd'hui par les paysages, on le voit parce qu'elle goûte, on le voit parce que le plaisir de faire du vélo en région, donc, c'est précieux. C'est précieux de la garder en vie. Et c'est à travers des gens comme on fait ici au presbytère, à travers les villages, qui sont d'une grande, grande préciosité pour notre ruralité.
On va rappeler aussi aux gens qui nous écoutent, parce que là, nous sommes à la radio, en fait. On va vous passer un message à la radio, dans la radio partenaire. Vous avez, d'ailleurs, dans le village, acheté plusieurs établissements, dont une église. On est dans une église actuellement dans laquelle vous gardez vos fromages, c'est ça?
Je n'ai aucune ambition de devenir propriétaire d'un village ou des établissements qui sont ici. Par contre, j'ai la grande fierté de vouloir les protéger. Et à travers le développement du presbytère, est arrivé devant nos yeux une église abandonnée, pourquoi pas une salle d'affinage, en maintenant la chapelle en vie. C'est du patrimoine, mais c'est le patrimoine de notre réalité, c'est ça, des églises, c'est ça. C'était l'histoire, et c'est encore bien précieux dans une histoire de village. Après ça, est arrivé une église, c'est-à-dire après ça, est arrivé un magasin général. On allait l'abandonner. Non, on ne pouvait pas abandonner le magasin général ou le laisser aller à Pierre-Jean-Jacques. Alors, c'est devenu précieux de mettre la main à la pâte, le conserver.
Vous êtes devenu, en fait, un revitalisateur de village, d'une certaine façon.
D'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est précieux de le garder bien vivant, d'assurer sa commodité pour la communauté et pourquoi pas faire profiter des gens un peu partout à travers le...
Alors, vos fromages sont bien connus. D'ailleurs, ils sont souvent primés au Caseus. Dans votre histoire, vous avez eu aussi quelques affaires originales. En fait, vous avez été le créateur, je pense, d'un fromage qui s'appelait le Monopole, mais finalement, qui n'a jamais vraiment vu le jour parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué sur le plan politique, je pense.
Oui, le bris du Monopole, en réalité, qui a été un moment donné tenté. On avait fait les étiquettes, mais... Aujourd'hui, je suis content qu'on ait arrêté tout ça parce qu'il faut savoir qu'à un certain moment donné, j'ai trouvé ça précieux d'avoir l'expertise de nouveaux groupes syndicaux à travers le Québec. Mais aujourd'hui, je considère que, bon, on l'a fait cet événement-là, mais je suis content et très heureux de travailler encore avec les membres de l'UPA qui sont des collègues de vie, avec lesquels je travaille, et des gens aujourd'hui qu'on a besoin, avec qui on a besoin de s'associer pour développer et maintenir en vie notre ruralité.
Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde regarde vers l'avant, vers une agriculture positive. Je pense que le message du livre, d'ailleurs de Suzanne Dion aussi, c'est que l'agriculture durable est importante. Et c'est un peu le message que vous passez à travers ce livre. Et...
Oui, c'est tout le message qu'on tient à conserver et à montrer. Puis Fred Pellerin était notre grand porteur.
Il signe la préface du livre, je pense.
Il signe la préface du livre, qui est une préface extraordinairement belle. Fred Pellerin utilise les mots à nous faire rire, à nous faire pleurer dans la même phrase. Il le fait si bien dans ce livre-là, mais il le fait aussi dans son village. Et je pense qu'il a été le porte-parole, il est le porte-parole de nos régions, de nos villages, et c'est très précieux de le faire à travers tout ça, et à travers aussi ce qui s'installe dans la modernité et l'évolution de l'agriculture.
Merci, M. Morin.
Merci à vous.
Alors voilà, c'était la rencontre avec Jean Morin, Michel Saint-Pierre, que tu connais bien, hein, la famille Morin, la famille du presbytère, la fromagerie du presbytère. Et d'ailleurs, c'est ce soir-là, Michel, que tu m'as dit, d'ailleurs je l'ai repris sur mon site, de dire que tu as déclaré que Jean Morin était le Fred Pellerin de Sainte-Élisabeth de Warwick.
Oui, et ce n'est pas la première fois que je le disais, soit dit en passant, cette image-là que j'ai de lui... Comme animateur d'un village, je me dis, s'il n'y avait pas eu un Jean Morin à Sainte-Élisabeth de Warwick, mm-hmm. on passerait sans arrêter. Or, si on va à Sainte-Élisabeth de Warwick le vendredi d'été, un vendredi, tout, n'importe quel oui. vendredi d'été, quand il fait beau, c'est mieux encore, là,
oui.
il y a un rassemblement. C'est une sorte de village ouvert et les gens viennent pique-niquer de très loin. Et il y a eu des vendredis où il y avait 5000 personnes sur wow! les terrains adjacents, oh. en face et l'autre côté.
La population à peu près?
La population est 700, je pense.
C'est pas gros, Sainte-Élisabeth, quand t'es dans le village, c'est pas gros. C'est
ça. L'autre chose intéressante, c'est pourquoi ça s'appelle un village dans un fromage? Ben, c'est Fred Pellerin qui a trouvé le terme. C'est lui qui termine sa préface avec...
Cette
ces mots-là, c'est comme si on avait mis un village dans le fromage. Mm-hmm. Alors, le titre est resté. Donc, on retrouve du Fred Pellerin, vraiment. Là, l'empreinte est là. Hein.
Dernier recensement de Sainte-Élisabeth, 2021, 383 oh, habitants.
Voilà. Wow. Alors, OK. Et là, on parle de 5000 personnes oui, et 300 oui. habitants.
Je suis allé, j'ai vu, j'ai pas vu les 5000 ou le vendredi le plus hot, si on veut, mais quand je suis allé un vendredi l'an dernier, il y avait déjà une couple de 1000 personnes là, sur le terrain et certains vont, évidemment, on va tous acheter un peu de fromage en grains.
Oui.
Mais c'est vraiment...
On se sent comme en famille, finalement.
C'est le village est un accueil en soi, parce qu'effectivement, les fromages sont conservés dans l'ancienne église. Donc déjà, c'est assez somptueux de voir les réserves de fromages.
Ça doit être magnifique, oui.
Et en fait, en face, tu as le magasin général. Et en fait, à côté, tu as la ferme de Jean Morin. Et en fait, tu as les tables de pique-nique. Effectivement, quand tu rentres dans le village, tu as un peu l'impression de rentrer dans un décor... je dirais pas un décor de cinéma, parce que c'est réel. C'est pas du carton-pâte.
Oui, c'est ça, non.
Mais tu es un peu dans un film, en fait.
Le magasin général qu'il a acheté, qui est en face, en fait, là, ben lui aussi, il a retrouvé les airs d'un magasin général de l'époque.
De l'époque voilà. Avec l'essence de l'époque.
Donc, c'est tout ça là, qui fait qu'on arrive dans un... et, comment dire, dans un village qui a une personnalité.
Il y a un homme.
On se transporte dans un autre monde, finalement, là aussi. Oui, oui. Là.
Ah, et c'est un personnage aussi, bon, on le voit.
On le voit d'ailleurs à tous les caséus. Je pense que c'est le fromager le plus volubile quand il reçoit ses prix. Et en fait, il a été volubile tout au long de sa vie. D'ailleurs, tu vois, je faisais référence tout à l'heure à. Moi, je me disais le Monopole. En fait, c'est exactement le Brie du Monopole, B-R-I-E.
Oui, oui, oui.
C'est une époque, en fait, qu'on a connue révolue, puisqu'en fait, c'est l'époque où les gens voulaient la fin du syndicalisme unique. Et à cette époque-là, Jean Morin, qui est un animateur aussi un peu politique, en fait, avait lancé un fromage qui n'a jamais vu le jour, dont seulement les étiquettes ont été faites.
Oui, c'est
le Brie du Monopole, ce qui ne faisait pas forcément beaucoup plaisir à l'UP à l'époque.
Probablement pas, non.
Il nous en a parlé avec beaucoup d'humour.
Le fromage a vu le jour.
L'étiquette
n'était pas la même.
Ils ont changé l'étiquette par la suite.
Une chose intéressante, dans l'église, bon, évidemment, c'est la salle d'affinage, et très, très, très bien équipée, là, très, très belle salle d'affinage. Et un robot aussi qui tourne les meules. Alors, en permanence, ce robot tourne à la fréquence voulue, grandes meules de ces fromages.
Wow, ça aussi, là. Ça doit être quand même impressionnant à voir aussi.
C'est impressionnant. Il y a une partie de l'église qui l'a conservée. Et c'est très, très intéressant. Une partie, à peu près une vingtaine de pieds.
Qui est conservée comme c'était à l'époque.
C'était l'avant, là où l'hôtel est.
Le cœur.
Et cette partie-là, il la laisse pour des célébrations qui peuvent être un mariage, par exemple.
Mais il y a un fromage en arrière des autres, quoi.
La partie affinage est complètement fermée. Okay, okay. Est complètement fermée. Mais dans cette partie d'en avant, qu'on accède par le côté, on peut célébrer un...
Encore utiliser l'église comme étant une église. C'est intéressant.
Comme c'est bien tout ça, mais quand est-ce qu'on part pour faire une petite visite?
Ben là, on va partir pour la pause, pour commencer, puis on va revenir avec la suite concernant ce livre, Un village dans le fromage.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Nous voilà de retour. Je vous rappelle, aujourd'hui, entre autres, on parle du livre « Le village dans le fromage » qui raconte l'histoire un peu de l'agriculture sur 5 générations à travers une même famille, la famille Morin de Saint-Élisabeth de Warwick. Oui, est-ce que c'est ça? C'est bien ça?
C'est ça.
Et l'auteur est une membre de l'Institut Jean Garon, si je ne m'abuse, Michel, c'est bien ça?
Collaboratrice depuis toujours et qui a, évidemment, qui a un parcours aussi très intéressant elle-même. Là. Mais elle est, est avec nous, là. Et c'était la plume aussi de la commission sur l'avenir de l'agriculture.
Oui, la plume est secrétaire générale de la commission sur l'agriculture du temps de Monsieur Pronovost, qui fut le président fondateur de l'Institut Jean Garon.
Exact. Et à travers ce livre-là, on suit sa famille sur 5 générations, et ça nous permet en même temps de voir ce que c'était à l'époque versus un peu aujourd'hui. Et il était un moment où l'agriculture au Québec, c'était pas mal de base.
Oui, il était un temps où l'agriculture... payait pas de mine, comme on dit. C'était c'est un métier dur pour lequel, on gagnait, avec l'expression du temps, on gagnait son ciel, mais péniblement. Et aussi, on n'avait pas de moyens et on était il faut le dire, parce que, puis on l'apprend très bien dans le livre, que l'agriculture du Québec traînait de la patte beaucoup, beaucoup, à tout point de vue, là, au niveau technologique, au niveau de ses moyens, de ses rendements, au niveau de la qualité du lait. On avait un lait de mauvaise qualité parce qu'on n'avait pas les moyens de le conserver. Nos fermes étaient, on allait chercher le lait à une fréquence qui était peut-être un peu trop longue, d'autant plus que c'était dans des bidons qui avait-tu ou a pas été lavé, je ne sais pas.
Alors, ouais, qui était peut-être un peu
Le résultat, c'est que le lait avait un niveau bactérien absolument fou. Alors, il bougeait pas, mais c'est tout juste.
C'était presque du yogourt.
C'était presque du yogourt.
Alors, oui, effectivement, ça a beaucoup changé depuis. Là, bon, la pasteurisation est arrivée à travers tout ça.
Oui, mais... il y a eu l'école d'abord de laiterie de Saint-Hyacinthe-Thiel qui a véritablement fait changer.
Et ça, c'est arrivé quand?
L'école de laiterie de Saint-Hyacinthe, 1889.
Ah, quand même, OK, ça date.
Près, oui, peut-être. En tout cas, au tournant, peut-être.
Et là, l'école de lettrerie, ce qu'elle a permis, c'est...
Ah, ben là, elle a amené... d'abord...
Quelle date t'as dit, Michel?
1889.
C'est bon, 1882.
82.
Ah, quand même pas supplié.
Bravo!
De mémoire, c'est bon.
De mémoire. Non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené, d'abord, une expertise. Il y avait très peu de gens, donc on est allé... Les professeurs qu'il y avait là-bas, là, étaient ceux qui avaient les meilleures connaissances en matière et... Ils ont fait école.
Ils ont fait des formations. Là. Ils ont montré aux gens comment faire.
Oui. Mais c'était-tu des gens du Québec? Parce que là, on parle d'où ils venaient, ces gens-là?
Il y avait des Européens, oui. On est allé chercher des professeurs européens pour lesquels il y avait, bien sûr, une historique de génération là-dedans. Mais il y avait aussi quelques gens qui, ici, étaient formés, par exemple, à l'Université Cornell. Il y avait quand même, à cette époque-là, des gens ou des agronomes, pour un certain nombre, qui avaient étudié ce secteur-là dans des grandes universités. Cornell était un peu la référence.
Michel, en fait, est très, très bon dans les dates, parce qu'en fait, si je dis 1882, c'est parce que le répertoire du patrimoine culturel du Québec dit 1882, mais si je vais sur le site de la ville de Saint-Hyacinthe, eux, ils disent 1892. Donc, ton 1889, il doit être pas mal.
J'étais pas mal.
J'étais bien centré.
Non, ça nous donne que quand même, on parle d'un siècle derrière, et pour lequel cette école-là a eu, c'est une sorte de révolution dans le domaine laitier, qui était notre principale production, déjà, parce qu'au niveau gouvernemental, il avait été décidé depuis longtemps que le Québec, c'était le lait et le porc.
Ah.
Peut-être pour des raisons aussi historiques de génétique. On était quand même issus pour la plupart de Normandie et de Bretagne, deux productions qui sont très, très importantes là-bas, donc on savait faire, alors que l'Ouest canadien, qui était peuplé davantage d'Européens, mais de l'Est, ben, et des Ukrainiens notamment. Et c'était tout à fait normal qu'on fasse du grain. On fasse du blé puis du grain là-bas.
Effectivement.
Mm-hmm. Alors, pour revenir au livre, je vous propose d'écouter Suzanne, parce que lors du 5 à 7 à Sainte-Élisabeth de Warwick, on a aussi discuté un petit peu avec Suzanne, qui nous a expliqué pourquoi ce livre.
Alors, Suzanne Dion, bonjour. On est ici à Sainte-Élisabeth de Warwick, dans votre village natal, je pense.
Mais pas tout à fait. Je suis née à Victoriaville, mais mes parents viennent d'ici.
Et en fait, vous avez donc produit un livre qui s'appelle Un village dans un fromage. En fait, on connaît un peu l'histoire ici de la fromagerie Le Presbytère, parce qu'on sait que Jean Morin avait en fait installé en fait ses meules dans une église. On était déjà venu la Viricole rencontrer Jean Morin dans le passé. On lui a parlé d'ailleurs aussi aujourd'hui. Mais on aimerait comprendre comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, parce que c'est un livre à la fois sur sa famille et on comprend sur la ruralité du Québec également.
Oui, mais je voulais écrire sur l'histoire de l'agriculture. Et il y avait déjà des histoires de l'agriculture qui avaient été écrites, mais d'une manière, c'était plutôt livresque. Alors, je trouvais plus intéressant de prendre l'histoire d'une famille et de suivre cette famille-là. Et je me suis rendu compte, en faisant les premières recherches, que chaque génération correspondait pas mal à une étape du développement de l'agriculture. Alors, ça donnait bien. Et donc, pour moi, c'était plus intéressant de mêler, disons, une histoire familiale à l'histoire des fromages, à l'histoire de l'agriculture et de la ruralité.
J'ai vu aussi dans votre livre, entre autres, il y a un moment où vous dites le rôle d'une fromagerie, en fait, dans un village, c'est à la fois la productivité, évidemment, puisque c'est pour ça qu'ils sont créés à la base, mais c'est aussi sociétal, c'est aussi environnemental. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Ben évidemment, ici, dans ce village, il y avait très peu d'activités avant que la fromagerie soit créée. Le fait qu'il y ait une fromagerie, c'est déjà, il y a des emplois qui sont créés, il y a de l'activité dans le village. Et étant donné que Jean Morin aussi a décidé de faire revivre une tradition qui existait dans la région de faire du fromage en grain une journée par semaine. Alors là, ça a réuni aussi beaucoup de gens. Donc, ça a eu un impact social. Évidemment, Jean Morin aussi avait la préoccupation de préserver le patrimoine. Alors, je pense bien que s'il n'y avait pas eu de fromagerie, à la fois l'église et le presbytère ne seraient plus entretenus. Alors, ça a un impact sur la vie du village, la vie économique, mais aussi la vie sociale du village.
Alors, dans ce livre, vous parlez évidemment de la ruralité, de l'histoire des fromages, de l'histoire des familles en région. Est-ce que vous abordez également les enjeux un petit peu auxquels sont confrontés aujourd'hui les fromageries, les fromagers?
Oui, je voulais aussi montrer dans ce livre-là d'où viennent les problèmes de l'agriculture actuelle. Souvent, quand il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose, un problème, souvent, là, on parle d'agriculture, mais on n'explique pas d'où ça vient. Alors, je voulais, par le truchement, justement, de cette histoire familiale, montrer comment se sont créés les programmes agricoles, les programmes qui soutiennent l'agriculture, et montrer les difficultés qu'ont les gens qui veulent innover.
En fait, vous incitez un petit peu dans ce livre, en fait, à moderniser un petit peu certains programmes, j'imagine?
Oui, bien sûr, parce que pour qu'il y ait une diversification de l'agriculture, il faut qu'on change fondamentalement les programmes de soutien de l'agriculture qui sont là actuellement. Faut aussi qu'on protège le territoire. Faut aussi que la Régie des marchés agricoles modifie ses façons de faire. Alors, je note ça dans le livre aussi, au passage.
Puis je vois que vous avez aussi des bons soutiens dans ce livre. Vous avez une belle préface, une belle postface.
Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment la chance. Ce sont des gens que Jean Morin connaît depuis longtemps. Alors, c'est Fred Pellerin qui a signé la préface, une très, très belle préface. Et Daniel Vézina, le chef, qui a signé la postface. Alors, les deux apportent quelque chose au livre aussi.
On vous souhaite, Mme Dion, une très belle soirée.
Merci beaucoup.
Alors voilà, c'était la rencontre avec Suzanne Dion lors du 5 à 7, ce moment où il y avait quand même pas mal de monde présent à la fromagerie du presbytère, lieu assez phénoménal que Izzy et Michel iront rencontrer au printemps prochain. J'imagine maintenant que Michel leur a vanté les pique-niques.
Le vendredi, c'est le vendredi.
D'ailleurs, le vendredi?
Oui.
C'est le vendredi qu'il faut y aller?
C'est uniquement.
OK. Uniquement, juste le vendredi.
Non, on peut y aller n'importe quand, sauf que l'appel...
Le vendredi, c'est bucolique.
Des fois, on dit c'est open house, mais dans ce cas-là, c'est le village qui est ouvert.
C'est le village qui est complètement excellent.
Le village qui reçoit, et c'est cette journée-là qu'ils produisent aussi le fromage en grain. Alors, si on veut avoir du fromage en grain frais du matin...
Ah, puis c'est tellement bon. C'est encore chaud, là. Ah oui. Alors, OK, parfait.
Alors, c'est le pique-nique, là-bas.
Ça va être un rendez-vous. On va aller voir ça. Saint-Élisabeth de Warwick. Mm-hmm. On invite les gens à aller faire leur petit tour, les amateurs de fromage. Ben voilà, ça complète cette quotidienne, monsieur. On avait des choses à ajouter en terminant?
Il y aurait tellement à dire.
Tellement.
Il y aurait tellement à dire, mais c'est lire d'abord le livre, d'une part, parce que c'est l'histoire de l'agriculture, une histoire qu'on ne raconte pas assez souvent ou qui est surtout dans un moment et une époque où les liens avec l'agriculture du Québécois moyen sont beaucoup plus ténus, sinon pas existants du tout. Alors donc, c'est véritablement une belle... Et ça se lit comme un chat. Voilà, ça c'est l'autre.
Excellent.
L'autre grande qualité.
Excellent. Ben, c'est noté. Merci beaucoup.
Merci à vous tous. Bonsoir.
Et voilà, ça complète cette quotidienne.